Et si je te ramène hors du monde des podcasts, il faut aussi qu'on se dise la vérité. Les assistants vocaux ou autres, parce qu'il y a des assistants visuels maintenant, ben, ça fait longtemps qu'ils ont débarqué. C'est juste qu'on commence de plus en plus à les utiliser. Et il y a une réalité très concrète avec ce que tu viens de dire. C'est différent l'audio. Et oui, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas comme on écrit en fait. Et on ne se comporte pas nécessairement de la même manière sur ce canal-là. Une recherche vocale, elle n'est pas structurée comme une recherche texte. Donc par exemple, moi je le vois quand je dis alors les mots fatidiques, ok, et puis moteur de recherche très connu. Je lance mon assistant, qui d'ailleurs est non loin de moi, et il me donne une réponse. Et mes questions ne sont pas les mêmes qu'à l'écrit.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 82.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez? Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parle d'ambition au féminin. Je vous avoue que ces temps-ci, la création de contenu, c'est ce qui me garde assez disciplinée parce que on dirait que tout ce qui est réseaux sociaux, répondre à des courriels, vu que je suis en train de créer une nouvelle offre, j'ai beaucoup de tâches et de choses à faire. Mes priorités sont très chamboulées en ce moment et j'ai beaucoup de misère, je dois vous avouer, à rester plutôt présente sur mes plateformes secondaires comme par exemple Instagram et même récemment j'ai de la difficulté à garder mon rythme sur LinkedIn. Mais le podcast par contre, c'est mon rendez-vous officiel dans le fond, mon infolettre. J'essaye aussi vraiment genre de rester le plus constante possible parce que si vous suivez mon contenu, vous savez que la constance reste une des clés de la réussite de tout ce qu'on fait en termes de marketing de contenu. Mais c'est sûr qu'on ne doit jamais mettre la constance au-delà de la pertinence. Et je pense que c'est ce que je ressens ces temps-ci un petit peu avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop qui se passe en ce moment, puis je me sens pas vraiment dans la vibe de partager à ce niveau-là. Je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, mais je voulais vous le partager parce que je pense que c'est important qu'on parle aussi de ces espèces de creux quand on crée du contenu. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être pour un prochain épisode, de quoi faire quand justement on a de la difficulté. Restez constante, laissez-moi savoir si c'est un sujet qui vous intéresse. Autrement, aujourd'hui, on a un sujet tout aussi fascinant avec une invitée que j'ai pour la deuxième fois, cette fois-ci, dans le fond, sur l'ambition au féminin, Myriam Jessier, qui est venue nous parler d'optimisation de contenu audio. Et quand on parle de contenu audio, je parle autant de podcasts comme celui que vous écoutez aujourd'hui, mais aussi de moteurs de recherche vocaux, comme par exemple Siri et Alexa, qui font de plus en plus partie de nos quotidiens. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de référencement? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de contenu? Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de comment on crée le contenu, comment on le pense et comment notre lectorat, nos auditeurs interagissent, nos clients interagissent avec ce contenu-là? Donc, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là, mais quand j'ai fait la première entrevue où on parlait plus de SEO avec Myriam, je vais vous mettre le lien ici naturellement, on a tout de suite eu cette idée qu'on voulait continuer la conversation parce que le contenu se présente sous plusieurs formes de plus en plus et de voir comment les machines, comment les moteurs de recherche apprennent à analyser ce contenu-là, c'est juste absolument fascinant. Et pour nous qui devons être présents, qui utilisons le contenu pour se faire reconnaître, se faire voir, pour se démarquer, ben ça devient important aussi qu'on comprenne comment ces différentes plateformes-là évoluent et qu'est-ce que ça dit aussi sur les nouvelles habitudes de consommation de contenu. Donc, je vous représente Myriam, si vous n'avez pas encore écouté notre première entrevue, ce que je vous encourage quand même fortement à faire parce qu'il y avait beaucoup de bonnes bases pour le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui, on s'entend, est un petit peu plus technique qu'à l'habitude, mais je pense que c'est important dans l'environnement dans lequel on évolue qu'on continue à pousser aussi tout ce qui est au niveau plus tactique, plus stratégique. Donc, Myriam Jessier est diplômée de la Sorbonne. Elle a un beau papier qui dit qu'elle s'y connaît en sociologie et un autre pour annoncer qu'elle n'est pas pire, en fait, en relations internationales, spécialité monde anglophone, oh yeah! Mais dans la vie, sa carrière consiste à optimiser des sites web pour les robots, les humains et tout ce qu'il y a entre les deux. On ne veut pas briser le cœur d'Alexa quand même. Alexa, avec qui Myriam a une belle relation. Et vous allez, je pense, la découvrir à travers cette entrevue-là aussi. Et ben voilà, genre, j'ai tellement hâte de savoir ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de cette conversation-là. Une conversation riche, passionnée aussi, parce qu'on parle, vraiment de tout un champ dans le fond, d'intervention au niveau de l'optimisation audio, que ce soit le podcast, comme j'ai dit, mais les autres plateformes aussi, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre contenu. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Myriam Jessier, et on se dit à très vite. Salut Myriam! Re-bienvenue sur l'Ambition au féminin. Je suis super contente de te reparler. J'ai tellement aimé notre première conversation que j'étais comme encore sous le charme, la dopamine de pouvoir avoir cette deuxième conversation avec toi.
Ben écoute, il en va de même de mon côté. Je ne savais pas que le retour serait aussi positif pour ma première intervention. Et suite à ça, ben, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait beaucoup à se dire, en fait.
Oui, absolument. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet qui est, je trouve qu'il n'est pas tant abordé encore parce que c'est relativement... Ben, relativement. Dans ton monde, c'est pas très nouveau, mais dans beaucoup de conversations autour du branding, autour de la notoriété web, on en est encore au balbutiement de tout ce qui est l'utilisation du contenu audio. Et pourtant, le podcast est de plus en plus un compagnon de notre vie. Donc, ben, podcast, Spotify et toutes les autres plateformes qui sont beaucoup dans nos oreilles. Et je voulais qu'on commence peut-être notre conversation avec une question ouverte, à savoir si est-ce que tu penses que l'audio, c'est une mode ou c'est vraiment cette nouvelle panacée de la création de contenu de marque qu'on promet?
Je pense que c'est un petit peu des deux. Et c'est là où ça devient vraiment flou. Et c'est là où il faut vraiment savoir comment tirer parti de l'audio quand on a une marque. Je te laisse rebondir.
Vas-y, vas-y. Non, je suis intriguée, je suis curieuse.
J'ai un petit trivia pour toi. En octobre 2020, j'ai reçu une infolettre que je trouve très intéressante. En fait, je la reçois tous les mois. Et ça me tient au courant de toutes les nouveautés. Et le mot-clé podcast hosting, donc l'hébergement de podcast, eh bien, les recherches sur Google ont augmenté de 275% au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, Edison Research estime que 37% des Américains écoutent au moins un podcast par mois. Donc ça, c'est de la régularité, ce dont on parle. C'est pas vraiment une tendance mode qui va s'effacer. On a intégré le contenu audio dans notre vie. Par le passé, si je fais un lien aux années 80, 90, 2000, il y a des chercheurs en France qui ont fait des études pour comprendre comment est-ce que les gens utilisaient la télé. Et la plupart du temps, les gens pouvaient l'utiliser activement, mais aussi passivement, comme tapisserie audio. Eh bien, de plus en plus, les podcasts prennent cette place-là dans notre monde, parce que c'est à la demande, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des visuels, et surtout, les assistants peuvent nous laisser écouter ces podcasts sans aucun problème, juste avec une commande vocale. Donc maintenant, je continue sur ma lancée, parce que visiblement, il y a plus de 850 000 podcasts actifs. Alors moi, ma question, c'est comment est-ce qu'ils ont recensé ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Et ça recoupe un autre mouvement. On s'est rendu compte que l'avenir des créateurs, c'est les communautés. Donc beaucoup de marques font ce qu'elles faisaient au début des années 2000 avec les réseaux sociaux. Beaucoup de marques créent des communautés dédiées via des podcasts. Donc parmi les marques, il y en a qui sont de plus en plus présentes en fait via des podcasts de marques qui donnent des conseils concrets. Il n'y a pas que les blogueurs qui se sont entre guillemets recyclés dans l'audio, il y a beaucoup beaucoup de monde qui débarque, donc ça crée beaucoup plus de nouvelles possibilités aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de créativité mais aussi plus d'outils.
Ouais, puis je trouve ça super intéressant parce que, bon, moi, là où j'en avais entendu, ben, j'en avais pas entendu parler pour la première fois, je pense que j'avais déjà cette idée, tu sais, des Américains qui avaient, il y avait Pat Flynn, il y avait beaucoup de gens qui ont été très des early adopters dans le monde du podcasting, mais j'avais lu Crushing It de Gary Vaynerchuk, puis là-dedans, il disait que s'il y a un truc dans lequel tu dois investir dans les prochaines années, c'est vraiment tout ce qui est audio, parce que vraiment avec tout ce qui est Alexa, tu sais, c'est encore un champ un peu non colonisé pour un terme.
C'est
qui
le Far
même,
West. C'est le Far
ouais.
West.
Ouais. Et donc, il y a encore de l'espace à investir avec notre signature audio, avec notre contenu audio, avec tout ce qui est axé sur la recherche audio aussi. Là, il y a plein de choses qui me viennent en tête parce que d'un côté, genre, j'aime ce que tu dis par rapport à la tapisserie audio. D'un autre côté, j'étais comme, mais c'est quoi la différence avec la radio? Parce que j'ai pas l'impression que, ben, moi j'ai jamais été une amatrice de talk show, de talk radio, de radio parlée, mais l'idée que tu as amenée avec la communauté, avec le choix, qu'on peut aussi s'approprier ce genre de contenu, ça vient aussi avec son degré d'intimité avec le créateur ou avec la marque, qu'on n'a pas nécessairement dans la radio, il me semble.
C'est exactement ça. Et honnêtement, en ce moment, je le vis pleinement, à choisir entre des radios. Alors, j'ai une petite anecdote. Est-ce que tu es au courant de la fausse crise nucléaire d'Hawaï?
Non.
Alors, en 2017, je crois que c'était en 2017, j'ai décidé de prendre mes premières vacances en tant que pigiste. Je ne sais plus si c'était 2017 ou 2018. Et j'arrive à Hawaï pour voir ma famille parce que j'ai grandi là-bas. Et ma première journée à Hawaï a commencé par une visite au Costco et tout le monde était nerveux. Mais nerveux! Et on a fini par demander c'est quoi cette nervosité. Et le caissier nous a dit bah, en fait, il y a un missile nucléaire qui arrive de la Corée du Nord vers Hawaï. Et on attend la confirmation, donc le gouvernement a lâché une alerte et on attend la confirmation si c'est vrai et on se fait pulvériser d'ici quelques minutes ou si c'est faux, une fausse alerte.
Ok.
Et donc je me suis retrouvée sur l'autoroute en mode Zombieland, pour ceux qui connaissent ce film de zombies, avec ma mère et mon conjoint.
Wow.
Et je peux te dire une chose... La seule chanson qu'on arrivait à entendre à Hawaï à l'époque, c'était une chanson de Rihanna où elle bugle non-stop. Pour moi, c'était ça. J'étais bloquée dans la voiture et j'entendais une chanson pareille. Je me suis dit, c'est ça que je vais entendre tout le reste de ma vie. Et si ça dure quelques minutes, non. Wow. Non, 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 non. Donc, il y a pas mal de monde qui, pour des raisons moins extrêmes que moi, se retrouve bloqué dans une voiture à devoir meubler ce temps qui est considéré comme mort. Est-ce que tu veux entendre 40 fois la même chanson ou est-ce que tu voudrais peut-être faire quelque chose d'utile avec ce temps-là? Peut-être que tu voudrais rigoler avec ce temps-là. Peut-être que tu n'as pas la tête à choisir quelle est la musique que tu vas écouter, en fait. Mm-hmm. Peut-être que tu veux retrouver un petit peu de confort dans cette situation inconfortable. Et c'est là que les podcasts prennent tout leur sens.
Ouais, puis il y a quelque chose de très corporel, je trouve, dans le podcast. T'sais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts en marchant. Mm-hmm. Puis ça me fait... C'est tout le temps rempli d'idées.
Oui.
C'est
ça
tout le temps
active
un moment,
le cerveau.
Ouais, ouais, absolument.
Et si je te ramène hors du monde des podcasts, il faut aussi qu'on se dise la vérité. Les assistants vocaux ou autres, parce qu'il y a des assistants visuels maintenant, ben, ça fait longtemps qu'ils ont débarqué. C'est juste qu'on commence de plus en plus à les utiliser. Et il y a une réalité très concrète avec ce que tu viens de dire. c'est différent l'audio. Et oui, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas comme on écrit en fait. Et on ne se comporte pas nécessairement de la même manière sur ce canal-là. Une recherche vocale, elle n'est pas structurée comme une recherche texte. Donc par exemple, moi je le vois quand je dis alors les mots fatidiques, ok, et puis moteur de recherche très connu, je lance mon assistant, qui d'ailleurs est non loin de moi, et il me donne une réponse. Et mes questions ne sont pas les mêmes qu'à l'écrit. J'ai été déjà entraînée par la machine de Google à être plus polie, parce que souvent, ben, on a tendance à juste exiger des choses comme un empereur romain, et de temps en temps, mais Google va répondre en disant « Tu peux pas être un petit peu plus polie, s'il te plaît ?» Donc c'est assez intéressant. Oui, oui, c'est un échange, c'est les chercheurs de Google qui se sont rendus compte que les gens étaient trop méchants avec cet assistant, ou que les gens étaient très polis avec parce qu'ils le traitaient comme un animal de compagnie, comme un membre de la famille, en fait. Donc laisse-moi te dire ce qui se passe quand on dit à Google, parce que moi je lui dis souvent, hein, donne-moi la meilleure recette de poutine, et il va me lire la recette étape par étape. Je dis, allez, je suis prête, la suite. Non, skip, donne-moi les ingrédients, s'il te plaît. Donc ça, c'est très utile parce que mes mains, elles sont occupées. Donc il y a une espèce de matrice de quand est-ce qu'on va utiliser l'audio. Donc si j'ai les mains, par exemple, dans l'évier à nettoyer quelque chose, je vais faire une commande audio. Si, par exemple, je suis affalée sur le sofa, et bien maintenant, je peux hurler des commandes du genre « J'ai besoin que la lumière du salon soit à 20% d'intensité et couleur magenta. » Et ça marche. Écoute,
c'est magique.
Allons-y, c'est limite Harry Potter là, c'est fabuleux. Mais il y a tout un processus derrière. Donc ce processus, il est positif et il est négatif, parce que d'où viennent les réponses de Google par exemple ? Eh bien, Google Assistant va aller chercher ces réponses-là dans ce qu'on appelle les résultats zéro, la position zéro. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
On en avait glissé un mot dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Mais si tu peux nous rappeler rapidement, qu'est-ce que c'est?
Souvent, quand on va taper quelque chose, donc par exemple, meilleure recette de pancakes fluffy, réelle requête de la part de Myriam Jessier, je les aime extra fluffy, sinon il n'y a pas de pancakes, eh bien, on se retrouve avec une recette qui, des fois, s'affiche d'office dans une boîte, tout au-dessus des résultats, et on peut limite lire les ingrédients et lire les prochaines étapes. Eh bien, Google utilise ça pour les réponses vocale. Donc le problème avec ça, c'est que la plupart des entreprises qui se positionnent en position zéro se rendent compte que ben, les clics ne sont pas là. Et on ne peut pas mesurer nécessairement à 100% l'impact de se retrouver en position zéro. On sait juste qu'il y a moins de trafic sur le site et qu'on n'est pas content. Mais ça renforce la position d'une marque en tant qu'expert parce qu'on te voit tout le temps popper, on commence à te connaître. Et en plus, on sait qu'au niveau du Far West, eh bien, peut-être qu'on est en train de devenir un pionnier. Donc le processus, il n'est pas aussi simple qu'on le pense. La première chose qui arrive, c'est que la machine doit savoir que tu lui parles. Ensuite, elle doit enregistrer ce que tu lui dis et après, le processus embarque. Il y a une analyse préliminaire, donc on retranscrit la parole. Donc ça veut dire que Google va prendre, puis Alexa aussi, hein, va prendre la commande. Donc elle est enregistrée, elle est envoyée chez Google et là, il y a une transcription qui se fait au format texte. Ensuite, on détecte les demandes, donc il y a une analyse du texte pour comprendre ce que la personne voulait. Et après, une fois que ça s'est bien compris, Google va connecter à des sources tierces, donc comme les moteurs de recherche pour trouver des infos pertinentes, pour répondre. Et la dernière étape, eh bien, on prend les contenus texte ou les autres contenus, parce que des fois c'est des contenus vidéo, et on traduit l'information en un format digestible qui répond à l'intention de l'utilisateur. Donc, si je reprends ça, si j'utilise une Google Hub qui est embarquée avec le côté visuel, donc j'en ai une qui me montre littéralement des choses, eh bien des fois ça va me jouer des vidéos. Des fois je peux appuyer sur un bouton pour appuyer sur Next. Mais si je suis juste avec un assistant vocal, comme la petite Google Home qui est en gros ça ressemble à une petite dragée là, eh bien ça, il n'y a pas de contenu vidéo qu'on va montrer, il va falloir obligatoirement toujours traduire l'information en un format digestible qui est un format texte.
Intéressant, parce que ça mène à la question justement de la relation entre texte et audio pour ce type de référencement-là, parce que justement quand je lisais le livre de Vaynerchuk, puis tu vas rire, mais j'ai sur ma to-do sur Notion, ça fait des mois que j'ai optimisé mon show pour Siri et Alexa.
La première chose que je peux te conseiller pour optimiser ton show pour Siri et Alexa, c'est de soumettre des transcripts. Mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Il faut le savoir. Un transcript, par exemple, tu donnais l'exemple de Pat Flynn, je pense qu'il le fait. Je sais que Neil Patel le faisait pendant un temps. Si je cite ces hommes-là, c'est juste parce qu'ils sont très en vue, mais c'est pas nécessairement mes sources favorites d'inspiration. C'est juste intéressant de les voir aller, hein, juste parce que j'en entends trop parler et ça me fatigue un petit peu. J'aimerais bien donner de la visibilité à des gens locaux, si possible. Donc, si on a des petits génies qui sont très affairés à optimiser leur recherche vocale, contactez Tatiana ou moi, on aimerait bien vous parler.
Oui, absolument.
Et la réalité avec tout ça, c'est que les machines, elles sont maintenant capables d'interpréter ce qu'on dit. Pendant des années, au tout début, la transcription, elle a commencé avec les fans de show. Pourquoi ? Parce que souvent, le show se retrouve en ligne aux États-Unis ou disponible. Donc là, je parle vraiment début 2000. Hein, et on se retrouve à devoir attendre des mois que ça soit traduit en français, de France ou québécois. Et il y a des fans qui offraient des sous-titres, en fait, qui faisaient la transcription et qui traduisaient. Et donc, YouTube a fait... bonne idée, ça. Donc, YouTube a passé des années, en fait, à analyser les vidéos uploadées, donner du feedback, demander aux gens ce qui se passe, demander aux gens de soumettre... On peut soumettre un transcript de sa vidéo sur YouTube. Et donc, maintenant, il y a des algorithmes qui sont capables de détecter, en fait, les voix et de comprendre ce qui est dit. Donc, maintenant, ça coûte de moins en moins cher de retranscrire les choses, mais c'est une très, très bonne astuce de soumettre le transcript parce que là, tu es sûr que c'est pas mal interprété. Parce que, bien entendu, le français, c'est un petit peu moins bien compris. C'est plus nuancé, on va dire. Et donc, des fois, je vois des transcripts où c'est une aventure sous acide de lire le transcript, en fait, tellement c'est pas logique.
Donc, surtout, nous, avec nos accents et nos anglicismes et tout ce qui vient avec, j'imagine.
Exactement. C'est une des choses que j'ai remarquées, en fait, dès qu'on parle avec une intonation un petit peu différente, un anglicisme, ou une des choses qui me rend folle dans la retranscription de Google, c'est que, par exemple, si je vais taper le mot « stationnement », il va me corriger dans Google Docs avec « parking ». Non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne localise pas les choses, on n'est pas en France ici. Donc... Si je retourne là-dedans, le transcript, c'est la meilleure aide. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui les soumet ou qui les met dans des articles en dessous. C'est que c'est beaucoup plus, ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Donc ça, c'est le premier conseil.
Puis ça aide la machine à mieux apprendre aussi différentes langues puis différentes intonations,
j'imagine. Exactement. Et j'aurais bien aimé faire un loopback aussi sur mais quel type de contenu se retrouve dans la position zéro. Parce que la position zéro, c'est contrôlé par Google... Ou sinon, ça t'est accordé. Donc, si c'est contrôlé par Google, par exemple, dès qu'il faut y avoir une petite réponse 10 fois 5, ça va être ce qu'on appelle un quick answer, c'est Google qui va te le donner. Ou sinon, des fois, ça va être, par exemple, quel âge a Betty White, c'est Google qui va te le donner dans la answer box. Mais, si toi, tu es en position 0 avec ce qu'on appelle un featured snippet, donc c'est vraiment Google qui prend une portion de ton site web et qui l'affiche, et bien souvent ça va être des paragraphes, donc c'est des réponses, par exemple, quelle est la date limite d'un REER, ou pour déposer dans le REER, c'était au mois de mars, hein, mais Google va laisser, mettons, fonds FTQ te donner cette réponse. Si on demande, par exemple, quel est le meilleur four à pizza, eh bien, peut-être que Google va te fournir un tableau comparatif. Je dis ça parce que les pizzas faites à la maison cet été, à mon avis, ça va exploser. Durant la pandémie, ça a explosé de tout court, les achats de four à pizza. Donc, renseignez-vous bien avec un tableau. Et le dernier point, c'est par exemple, si toi, tu décides de lister les meilleures entreprises féminines au Québec, eh bien, cette liste-là peut se retrouver affichée dans le résultat aussi. Donc ça donne déjà beaucoup plus d'idées sur quel type de contenu on veut optimiser pour l'audio, et c'est pas mal important. Donc,
puis là, une petite question pendant qu'on est là-dessus, est-ce que ça serait le même type d'optimisation que si on l'optimisait pour le texte? Parce que là, t'as dit que les questions 100%. Sont différentes à l'audio qu'au niveau 100%.
Blog. 100%. 100%. Okay. Donc après, si tu as des épisodes de podcast, on va en parler dans quelques minutes, mais Google propose de soumettre son podcast directement dans Google pour l'afficher de manière très enrichie et afficher en fait les résultats de podcast où littéralement tu as des résultats. Quand tu cherches par exemple le podcast de Joe Rogan, tu peux appuyer sur un bouton depuis les résultats pour le jouer.
Oui, mais c'est ça. C'est vraiment là-dedans que je cherchais ce type. Bon, qu'il fallait que je fasse des recherches là-dedans parce que quand je lisais le livre dont je parlais, ça disait, tu sais, t'es en train de te brosser les dents, puis tu peux juste dire, je veux savoir, mettons, je veux écouter le dernier épisode de Rogan ou je veux avoir ma dernière information financière donnée par telle source, par tel blogueur ou quelque chose comme ça.
Alors, je vais un petit peu skipper à ce moment-là et on va parler de... On peut soumettre son podcast à Google de deux manières. On peut le soumettre en mode DIY, soi-même, ou bien passer par une plateforme payante dédiée. L'avantage des plateformes payantes, c'est que, bien entendu, ils se chargent de tout et surtout, ils te soumettent à ils soumettent ton flux à différents partenaires, pas seulement Google. Donc, il y a des conditions d'éligibilité si tu veux te soumettre à Google. Il y a des prérequis techniques. Donc, il faut un flux RSS valide qui décrit ton podcast conformément aux spécifications RSS 2.0. On ne panique pas, il ne faut pas les connaître par cœur, il faut juste se renseigner, il y a de la documentation là-dessus, et c'est vraiment une petite checklist, c'est tout. Il faut que le flux contienne au moins un épisode. Donc si quelqu'un veut s'avancer et soumettre un flux avant d'avoir du contenu, ça ne marche pas. Et il y a des spécifications techniques qui sont liées aux épisodes et au format. Donc tu peux pas soumettre n'importe quel format, il y a vraiment des enjeux par rapport à ça. Et dernier point, tu dois avoir sur ton site une page d'accueil dédiée à ton podcast. La page d'accueil doit inclure un élément qui renvoie vers le flux RSS. Donc, pas de panique, j'ai un lien vers les consignes officielles, on va le communiquer. Mais le but du jeu, en fait, c'est de rentrer, de mettre son pied dans la porte et de soumettre ça à Google. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut savoir comment ça performe via le Google Podcast Manager. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va... C'est comme la Google Search Console pour les sites web, mais c'est pour les gens qui ont un podcast. On peut voir la performance dans Google. Donc, il y a le rapport performance, exactement comme dans Google Search Console, mais c'est pour un podcast. Donc, on peut voir les données pour chaque épisode, pour comprendre les habitudes d'écoute. On voit sur quels appareils les gens écoutent et ça permet de valider son podcast et de le rendre plus disponible via Google Search, Google Assistant, mais aussi l'application Google Podcast. Parce que bien entendu, il y a différents spots où les podcasts ressortent dans Google.
Non, c'est intéressant. Là, tu viens de m'ouvrir les yeux sur le fait que j'ai jamais regardé les stats sur le Google Podcast Manager. Mais effectivement, je viens juste d'ouvrir la page puis je suis comme « wow ».
Et
ça devrait faire partie des habitudes.
Exactement, puis il y a un autre élément, bien entendu. Pourquoi est-ce que je pense que les podcasts et l'audio, ça va rester? Eh bien parce que Google a investi maintenant, j'ai presque envie de dire des milliards, mais on va rester conservatrices toutes les deux et dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions pour optimiser tout ça. Le but de pouvoir lire ce que je dis aujourd'hui, c'est pour permettre de placer des publicités. Donc, bien entendu, Google s'est rendu compte que pas mal de podcasts ont trouvé des modèles de financement qui sont alternatifs, à savoir des invités sponsorisés, des publicités, tout l'épisode de podcast sponsorisé s'il le faut, etc., etc. Donc maintenant, ils essayent d'étendre leur empire, parce que bien entendu, la publicité a pris un énorme coup durant la pandémie, ils ont eu un énorme manque à gagner, et là, ils font ce qu'on appelle de la R&D. Ils se positionnent comme leader du marché de la publicité audio.
Intéressant. Je lisais un article sur le type de publicité. En fait, c'était pas un article, c'était des bonnes pratiques dans le groupe professionnel des médias sociaux et du web sur quelqu'un qui parlait de pub Spotify, puis les bonnes pratiques par rapport à ça, puis je trouvais ça fascinant.
Ah oui, absolument. Absolument. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, j'ai une petite nuance aussi qui est pour les gens qui sont vraiment obsédés de la recherche comme moi. Il y a une mode qu'on peut voir de plus en plus. C'est que, par défaut, le résultat des podcasts lisibles par Google, ben, il ne répertorie que 3 épisodes. Ça montre les 3 épisodes les plus récents dans les résultats. Mais, quand Google nous permet de cliquer pour voir tous les autres épisodes, on arrive sur le flux d'un podcast donné. Donc, t'as tous les épisodes par ordre chronologique. Et l'expérience, elle est pareille sur mobile. Donc, c'est la même présentation. Le but, c'est que les gens puissent consommer le contenu audio, genre, directement. Et ça, c'est important parce que si, par exemple, il y a des gens comme toi et moi qui, après des années d'expérience, se lancent et disent « Ben, maintenant, je vais apprendre aux autres comment faire ça. » Eh bien, une très très bonne stratégie pour promouvoir des cours en ligne, ça inclut la création de podcasts ou la participation à certains podcasts. Donc l'idée, bien entendu, participer à un podcast, ça paraît logique. Tu dis, bon, ça fait partie de mon lancement. Mais si tu crées un mini-cours en format podcast plutôt qu'en format infolettre, eh bien, ça marche très bien. Ça marche très, très, très bien. Donc ça m'amène à un autre point au niveau de tendance qui va s'effacer ou réellement tendance qui va durer. C'est que pour moi, par exemple, la façon dont je le vois, rédiger un contenu écrit, ça me prend beaucoup de jus et ça prend beaucoup de temps et de recherche. Mais je peux donner vie à ce contenu, je peux lui donner plusieurs vies comme un chat. Ça peut être une infographie, ça peut être un mini-cours via courriel, ça peut être aussi un podcast. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se dire, bon, je sais qu'on n'écrit pas de la même manière dont on parle. Comment rendre mon ton à l'écrit plus conversationnel pour bien me positionner sur les réseaux au niveau audio pour les réponses des assistants, mais aussi comment est-ce que je peux m'aider moi-même à recycler ce contenu, parce que s'il est rédigé sur un ton conversationnel, je peux quasiment tout simplement le lire et pointer vers ça. Et donc là, ça amène une autre donne aussi, c'est que mettons, hypothétiquement, donc là c'est vraiment un exemple, hein, si j'arrive et je viens de participer à un enregistrement avec la cohorte de Quartier Artisan, c'est une très très belle entreprise pour donner de la visibilité aux artistes et aux artisans locaux au Québec, et bien cette vidéo-là qui va durer une heure, on va en faire un teaser qui va durer 3 minutes, mais peut-être qu'on peut en faire aussi des capsules dédiées, et peut-être qu'on peut extraire les voix qu'on entend pour en faire un transcript, potentiellement réfléchir, ok, est-ce que ça c'est bon, on a tout bien lu, est-ce que c'est solide, et bien dire à la personne en charge de l'audiovisuel, est-ce que tu pourrais m'en faire aussi des capsules audio. Et là, ces efforts-là, bien on les a mis, mais on ne se disperse pas en fait. On arrive enfin à extraire la valeur, pas maximale, mais la valeur réelle de tous nos efforts marketing, en fait.
Non, le recyclage de contenu de cette façon-là, stratégiquement comme ça, c'est une des choses les plus puissantes qu'on peut faire. C'est vraiment une des façons, parce que tout le monde me demande tout le temps, comment tu fais pour créer autant de contenu, mais c'est comme, t'en crées pas tant que ça.
Non! C'est mon papa, il avait une expression que j'adorais, il avait d'ailleurs de très très bonnes expressions. Il disait, le savoir c'est comme la confiture. C'est pas une question de combien tu en as, c'est comment tu l'étales complètement sur ta tranche de pain.
Exact, exactement. Puis tu sais, le contenu, puis là même on est en train de parler, puis tout ce que tu offres en ce moment, c'est du contenu que tu as déjà intégré aussi, puis que tu es capable de reformuler aussi sur différentes formes. Ça me faisait penser aussi à certains tests que j'avais faits, mais qui n'avaient pas été aussi... Bon, peut-être c'était pas le moment non plus, mais j'ai un bon exemple qui scripte bien ses épisodes, et c'est Alexandra Martel. C'est elle qui elle fait du contenu audio sur la rédaction persuasive, et puis elle les scripte parce qu'elle veut que ce soit relativement court, mais je me disais qu'effectivement, dans son cas à elle, même si elle n'en a pas en ce moment... mais elle devrait probablement en avoir un. Cet article-là, ce podcast-là, est un article de blog hyper bien structuré, hyper bien
absolument. Et
optimisé.
Absolument. Et je vais en profiter aussi pour faire une petite dédicace parce que je collabore avec beaucoup, beaucoup de femmes dans différents contextes. Et il y a Céline Lemerlu qui est à la Société des musées du Québec. Donc, elle m'a ouvert les yeux en me disant « Myriam, ce que tu fais, c'est magique, mais il va falloir un petit peu le structurer. » Pourquoi ? Parce que ma spécialité, c'est d'arriver avec un cours déjà monté, mais je sais très bien quels sont les besoins de mon audience, et quand on m'interrompt pour dire « oui, mais j'ai un problème X », j'ai quasiment toujours la réponse. Donc ça devient une situation de stand-up, quasiment, comme le stand-up de comédie, mais pour du web. C'est-à-dire que je réponds à toutes les questions sur un coin de table. Et
oui. T'es comme Siri ou Alexa.
Oui, littéralement, on me dit très souvent « Myriam, j'aimerais t'avoir comme collègue sur le bureau d'à côté pour te poser des questions toute la journée. » Et je trouve ça vraiment... très sweet comme compliment, mais c'est aussi quelque chose qui me cause une terreur profonde. C'est-à-dire que si jamais... j'essaie d'imaginer mes journées à répondre à toutes les questions de tout le monde, et ça paraît exténuant. Ouais. Et Céline, elle m'a dit, il faut que tu aies un scénario. Donc un scénario, c'est un petit peu différent d'un script, c'est que je me dis, de diapositives 1 à 5, ça devrait me prendre tant de temps pour en parler. De diapositives temps à temps, ça devrait me prendre tant de temps. Donc là, on peut le faire pareil pour paragraphe 1 à paragraphe 3. Et donc ça, ça me laisse un petit peu plus de flexibilité pour pouvoir dire, bon ben, tout n'est pas rentré dedans, on a dépassé le temps, mais on peut aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne stresse pas, on respire un grand coup et on sait que, on sait où est-ce qu'on en est. Mmh. Donc ça, ça m'a permis, pour moi, alors c'est dans le cadre des cours, hein, vraiment des cours personnels, mais ça m'a permis de dire, ah, ok, on est 15 dans la salle, toi, ça fait 3 fois que tu poses la même question, c'est très bien, j'ai pas pu y répondre parfaitement, clairement, malheureusement, on doit passer à autre chose, ne t'inquiète pas, on va couvrir ça par la suite. Donc ça m'a permis d'être un petit peu plus rigoureuse et moins polie, en fait, pour accomplir plus de choses. Donc ça, c'est déjà le premier point qui aide. Parce que là, on commence à se connaître un petit peu mieux aussi et se dire, ok, réalistement, si je veux faire tout ce que je veux faire, je dois m'organiser. Et si je rebondis là-dessus, est-ce que tu voudrais connaître mes conseils pour optimiser les contenus quand on est une marque qui n'a pas de podcast et mes conseils quand on a un podcast?
Oui, absolument. Mais avant, je voulais juste revenir. Est-ce qu'il y avait d'autres étapes? Parce que tu nous avais dit que mettre en lien les... pas le script, c'est le transcript.
Oui.
Il y avait mettre en lien le transcript, puis après ça, il y avait viser la position zéro, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses dans cette petite liste que tu voulais nous dire avant qu'on passe à tout ce qui va à l'extérieur du podcast, justement?
Mais en fait, si on est une marque et on rédige pour la position zéro, le numéro un, c'est... il faut un ton plus conversationnel. Donc, une des choses qui me gêne dans beaucoup d'articles... c'est même les articles en marketing web là que je vois souvent, c'est des agences de France en fait. Je suis en mode oh my god, tu n'es pas en thèse, tu n'es pas en train de défendre tout ton mémoire là, respire un coup, juste arrête d'être aussi professionnel et parle à des humains. Donc il faut un ton plus conversationnel pour qu'on comprenne bien, mais il faut aussi des mots-clés un petit peu plus longs. Donc d'habitude on a tendance à faire je suis la première coupable de ça, hein. Je vais dire par exemple comment optimiser un contenu. On va dire comment rédiger pour le SEO. Non. Le vrai problème que les gens ont, c'est pas comment rédiger pour le SEO, ils en ont rien à faire. Par exemple, dans le cadre d'une boutique Shopify, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment est-ce que je rédige ma description de produit dans Shopify. Mm-hmm. Tout d'un coup, mon mot-clé, il est beaucoup plus long.
Ouais, beaucoup plus naturel.
Exactement. Et il faut aussi clarté, contexte et pertinence. Donc, il faut un contenu, d'habitude, si on veut se positionner en position zéro, là, ce qui aide, donc je ne dis pas, c'est le 80%, hein, il y a peut-être un 20% des cas qui est différent, il faut que le titre, donc, ou le titre de l'article, ou le titre de la section qui va être utilisée pour ça, eh bien, ça pose une question courante. Donc, comme tu m'as entendu, c'est comment rédiger une fiche produit dans Shopify. Après, juste en dessous du titre, on ne fait pas du fla-fla, on ne va pas expliquer que Shopify existe depuis tant de temps. Non, on répond à la question ou on fournit la définition. Et après, on peut s'étendre. Mais le but, c'est que Google puisse comprendre question-réponse. Et ça, c'est clé. Oui.
Puis je trouve ça tellement que ça nous enlève un stress dans tout ce qui est autant la rédaction web que la rédaction, que la création de contenu, point, de... penser qu'on doit être des experts à aller chercher les métriques, toutes les grandes recherches, AdWords, etc., etc., pour comprendre ce que notre lecteur ou utilisateur veut entendre, alors que ça demande juste de se mettre dans la peau de notre avatar, puis de dire comment est-ce qu'il chercherait cette information-là pour arriver à ce qu'il veut accomplir, tu sais.
Exactement. Et une des choses qui m'a débloquée depuis la pandémie, c'est que j'avais vraiment peur de ne jamais être assez professionnelle alors que je suis très professionnelle. Donc j'ai commencé à avoir un petit peu plus de fun. Mm-hmm. Parce que au bout d'un moment, puis alors là, je sais pas à qui je parle, mais je pense qu'il y a d'autres femmes comme moi, au bout d'un moment, quand on fait la même chose depuis suffisamment longtemps, on commence à s'amuser. Mm-hmm. Donc on prend des risques. Et j'en suis rendue là et les machines en sont rendues là aussi. Donc, si je te parle du contexte des visiteurs audio qu'on a, mais il faut savoir que les machines, elles prennent en compte le contexte géographique. Donc, par exemple, si je dis à quelle heure est-ce que le Dollarama de Wellington ferme, il va deviner que je ne suis pas dans une ville qui s'appelle Wellington, en fait. Il va identifier, de par mon contexte géographique, dans mon compte, que c'est celui qui est sur la rue Wellington, non loin de chez moi. Puis ne t'inquiète pas, la rue Wellington est tellement longue que personne ne pourra identifier nécessairement où j'habite. Ensuite, le contexte applicatif. Est-ce que je suis dans une app et que je demande quelque chose à Google, ou est-ce que je demande quelque chose hors contexte? C'est-à-dire que si je suis dans l'app, par exemple, pour l'assistant, ça va me donner certains résultats par rapport à si j'étais, par exemple, sur mon mobile en train de chercher autre chose, ou si, par exemple, j'utilise Alexa. Donc, il faut savoir, l'application est différente, bah, les résultats sont différents. Un contexte visuel aussi. Donc, ça, c'est un...
Attends, oui? Dis-moi, puis ça, c'est parce qu'ils considèrent que tu es dans un contexte de consommation, ce contenu différent?
C'est deux choses. C'est le contexte. Donc, ils font leur propre expérience utilisateur. Hein, ils optimisent comme ils le souhaitent. Mais toutes les applications n'ont pas nécessairement aussi les mêmes vocations. Donc, par exemple, quand moi, je dis le contexte applicatif, c'est que si je demande ça dans Alexa ou dans Google Home, ça ne va pas être le même résultat. Si je fais une recherche depuis mon mobile en demandant à l'assistant quelque chose, eh bien, il ne va pas me montrer les mêmes résultats avec la même interface. Ça va être différent. Donc, c'est quelque chose qui influe sur les résultats, mais aussi la façon dont la requête elle est prise en charge. Parce que, encore une fois, on prend en compte le contexte applicatif.
Oui, parce que, la question, c'était plus parce qu'ils considèrent, comme par exemple, que si tu es sur ton mobile, que tu es peut-être en mouvement, et donc...
Exactement.
Tu as d'autres habitudes de consommation, que si c'est un vidéo ou quelque chose comme ça, que si tu aurais, si tu es dans ta maison
ça.
En train de
c'est 100%
de
faire... ça. Et... il y a aussi le contexte personnel. Donc, comme j'ai dit, le contexte géographique est important. Mais si, par exemple, moi, j'ai un conjoint et que je demande à mon assistant, parce que je suis enregistrée, d'appeler mon conjoint, il sait quel est le numéro. Si j'ai enregistré mon lieu de travail dans mes favoris, que je lui demande de me trouver un restaurant ouvert proche du travail, ben, il sait comment me satisfaire. Donc ça, c'est assez malade de réfléchir à tout ça. Mais c'est aussi effrayant de se dire « Oh my goodness comment est-ce que je vais faire du marketing alors que moi, je n'ai pas toutes ces informations-là ? » Eh bien, le but, c'est encore une fois de retomber sur les personas et de réellement parler à ses clients, de comprendre quels sont leurs besoins et quelles sont leurs habitudes. J'ai une dernière chose à laquelle toi et moi, on n'a pas pensé nécessairement, mais il y a le contexte visuel aussi. Donc, si par exemple, je me balade sur la page de Wikipédia sur mon mobile et que je demande à Google de me montrer des images de Donald... il va me montrer les images de Donald Trump. Il sait que c'est ce Donald-là que je cherche et que c'est pas le canard. Donc ça, c'est aussi assez fou, le contexte visuel. C'est que tu peux demander quelque chose et Google va comprendre, malgré toutes les propositions potentielles de Donald, que vu le contexte visuel où tu es là, je vais te fournir une photo de quelqu'un qui est trop bronzé et non pas du canard. Donc ça aussi, c'est des petits trucs auxquels on ne réfléchit pas, mais si on applique ça à quelque chose de concret, de local, eh bien, si je cherche, par exemple, le meilleur grattoir barbecue au Québec, donc Google va comprendre que je cherche quelque chose de local, il va me fournir peut-être des images aussi sur mon assistant. Il va me les montrer, ou sur mon téléphone. Et ça amène à un autre point, c'est de réfléchir, mon Dieu, mais c'est quoi les types de résultats qui ressortent? Et c'est là où... bien entendu, dans ce podcast, on a discuté du fait qu'il y a des listes, il y a des paragraphes, il y a des tableaux, et il y a différentes choses comme ça qui ressortent. Donc, c'est très nébuleux pour les marques, mais si on arrive à se positionner en pionnier sur la recherche vocale, je peux garantir qu'il y a beaucoup, beaucoup à gagner. Ça se voit de plus en plus. Ça ne se mesure pas encore parfaitement, mais ça se ressent de plus en plus sur les revenus, en fait.
Et si on n'a pas de podcast, vas-y, dis-nous tout.
C'est ça que j'allais poser comme question, c'est que si on n'a pas de podcast, ce qui est mon cas, je suis sans podcast fixe, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on demande à des gens comme toi, mais on ne demande pas nécessairement n'importe comment. Donc moi, ce que j'aurais aimé qu'on prenne le temps d'aborder là, maintenant, tout de suite, c'est tes conseils d'experte. Comment est-ce qu'on se fait inviter sur un podcast ? Ou comment est-ce qu'on met la chance de notre côté, on contacte des gens et on se fait quand même inviter ? Il y a des invitations qui se font parce qu'on a de la visibilité et les gens nous connaissent et veulent nous avoir. Et des fois, il y a des invitations qui s'ensuivent de « Oh mon Dieu, je ne savais même pas que tu existais, c'est impératif qu'on se parle ». Comment est-ce qu'on génère ces deux choses-là? Commence par le premier. Comment est-ce que tu as pensé à m'inviter, moi? Utilisons-moi comme exemple.
C'est drôle hein, que tu parles de ça parce que je suis en train de créer ma nouvelle offre de service qui va sortir cet été. Puis, j'ai un module complet sur ça qui est ce que moi j'appelle le content networking ou le networking de contenu, OK? Qui est vraiment, selon moi, sur quoi j'ai basé tout mon travail de contenu depuis le début d'Aime ta marque, qui n'était pas nécessairement de juste faire du SEO pour du SEO ou juste d'écrire du contenu pour écrire du contenu, mais vraiment de voir le lien entre la création de contenu et les relations que tu crées dans ton milieu de travail, parce que selon moi, c'est ces relations-là qui sont vraiment au cœur de ta notoriété. Et c'est intéressant parce que c'est un peu, tu sais, le contexte du SEO dans lequel on parle de crédibilité, si on le transpose à la vraie vie, c'est exactement ça, c'est de créer un réseau d'humains qui vont être capables de dire « Tu veux telle information, va voir telle personne, va voir Tatiana », ou « Tu veux telle information, va voir Myriam ».
C'est quelque chose que les gens sous-estiment, et moi inclus. On dit que le contenu, c'est 20% de préparation et de rédaction, et 80% de promotion. Et je suis absolument abjecte à planifier ma promotion. Et ce qui m'a sauvée, c'est ce fameux réseau-là. C'est que je n'aurais jamais pensé à remonter mes bretelles et débarquer dans ta boîte courriel pour dire « Tu m'invites, on a des choses à se dire, ça va être utile. »
Et puis ce qui est intéressant, c'est comment tu sais, si tu m'avais écrit, moi, ça a donné que c'est moi qui t'ai invité, mais parce que tu m'avais vu passer avec mon contenu ou parce que moi, j'avais déjà vu ton site ou j'avais vu que tu étais référé par des gens parce que je voyais le type de formation que tu donnais, tu sais. Tu as petit à petit, t'es devenue pour moi la référence, tu sais. Puis vice-versa, petit à petit, je suis devenue quelqu'un de crédible avec qui tu sentais qu'on pourrait avoir une conversation.
Écoute, ça faisait tellement de fois qu'on me disait « Comment ça se fait que t'es pas encore passé? » Je disais « Mais pour passer, il faut être invité, non ?» Et donc, j'avais cette gêne. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est super important d'en parler. Donc, le module que tu montes, ça tombe à pic. C'est quelque chose dont je voulais parler de base, mais je ne suis pas une experte là-dedans, clairement. Mais c'est nécessaire d'en parler, en fait. Donc, si, mettons... Allez, je vais utiliser un exemple parce que j'adore cette marque et j'adore la créatrice. Peut-être que tu connais Lydia. Peut-être pas. Mais si tu la connais pas, non, Lydia Raymond de iwearlydia.com, elle a des petits bijoux minimalistes et une des choses que j'adore, c'est que, eh bien, je porte une énorme licorne en or rose, une licorne minimaliste, et chaque fois, c'est mon gris-gris porte-bonheur chaque fois que je vais faire une intervention. Et des fois, quand je fais des interventions en physique, où on me voit, on me dit... Je connais cette licorne, c'est un petit peu le code secret de pas mal de femmes en affaires à Montréal, c'est rigolo.
Ah là, j'en veux
une. Ah écoute, je te conseille d'aller la voir, elle est fantastique. Et si par exemple, là je te parle de Lydia, qui fait des bijoux, donc c'est pas nécessairement une femme d'affaires en marketing, bien qu'elle sache très bien en faire. Qu'est-ce qu'elle devrait écrire dans un courriel, ou qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que, pas nécessairement que tu l'invites, mais au moins que tu prennes son courriel au sérieux.
Bon, ça c'est super intéressant parce que je reçois souvent des demandes, puis il y a un formulaire sur l'ambition féminin où les gens peuvent appliquer. Puis la chose où les gens ont vraiment de la difficulté à faire, c'est de se mettre dans les souliers de la créatrice. Puis pour se mettre dans les souliers de la créatrice de contenu, il faut comprendre son audience. Et c'est la même chose, puis c'est drôle, hein, parce que moi, avant de travailler sur le web, je travaillais dans les relations médias, je travaillais pour un éditeur, puis après ça, j'ai travaillé au Voir, un magazine ici pendant un temps. On faisait de la promotion de shows, puis des choses comme ça. Mais c'est un peu le même concept que ce qui est le PR traditionnel, dans le sens de dire « je veux que ce journaliste parle de moi dans sa rubrique ». Mais pour ça, il faut que je comprenne, parce que le journaliste, lui, il écrit pour que son public ait envie de lire, ait envie, il y ait l'information dont il a besoin, tu sais. C'est drôle. C'est intéressant de penser, mettons, à chaque chroniqueur. Pourquoi est-ce qu'on va lire tel chroniqueur plutôt qu'un autre? Ou on va aller écouter, justement, bon, moi j'ai tout le temps le bug de dev perso au lieu de quelqu'un d'autre. Et pour se faire inviter sur des podcasts ou se faire inviter sur ces plateformes-là, il faut comprendre, dans le fond, qu'est-ce que j'ai à offrir qui pourrait intéresser cette audience-là. Puis pour ça, ben, ça suffit pas de juste dire ben, elle semble avoir une belle visibilité ou ça serait cool que je sois dessus, mais vraiment de proposer des sujets, de proposer des... de dire, j'ai vu que t'as fait tel épisode avec, mettons, tel invité, mais t'as pas parlé de tel angle. Pour moi, c'est vraiment l'angle. C'est l'angle d'approche, l'angle de sujet que tu vas me proposer qui va faire ça passe ou ça casse.
Donc, mettons, là, on va riffer ensemble parce que... Alors, désolée Lydia, tu n'étais pas au courant si jamais tu écoutes ce podcast. Coucou, je t'adore. Mais, mettons, de ce que je connais de cette marque-là, si Lydia, elle te contacte en disant, écoute, tu as passé, par exemple, une de mes amies très proche en interview, elle m'en a parlé, elle a adoré l'expérience. Moi, je fais des bijoux pour les femmes avec des collections vraiment féministes et le but, c'est que les femmes d'affaires, quand elles sont en rencontre, elles se sentent fortes, mais pas nécessairement avec des très gros bijoux, juste un truc pour toi, en fait, que tu te sens bien. Laisse-moi donner quelques conseils sur quel type de bijoux on peut mettre quand on fait, par exemple, des visioconférences. Est-ce que ça serait quelque chose qui t'intéresserait, mettons?
Ça pourrait être très intéressant de dire, ben non, maintenant dans l'ère du Zoom, comment est-ce qu'on fait pour, tu sais, pour améliorer notre image ou genre de façon subtile, améliorer notre style. Mais tu sais ce qui m'intéresserait? Puis là, à ce moment-là, si tu m'amènes un sujet qui est un peu intéressant pour moi, comme ce que tu viens de dire, après ça, là, ça crée un déclic dans ma tête, puis je me dis, non, tu sais quoi, j'aimerais ça qu'on parle de bijoux et de féminisme, tu sais, puis de savoir est-ce que, tu sais, le parallèle, mettons, avec le maquillage me vient en tête, de savoir est-ce que, tu sais, le maquillage très patriarcal comme idée, souvent, même s'il y a beaucoup de femmes qui se sentent empowered par ça, ce que je trouve un sujet très, très, très facilement de comment on modifie notre corps pour, tu sais, pour être soi, mais pas nécessairement pour être soi dans le désir de l'autre, mais un bijou, ça a une position différente dans notre psyché, puis comment est-ce qu'on peut associer un objet externe, justement, quelque chose qui va nous représenter personnellement. Fait que là, on embarque dans des degrés de profondeur qui commencent à m'intéresser un peu plus que genre... Parce que moi, tout ce que je veux éviter, c'est que mon show, ce soit un publisac, tu sais, ou quelque chose du genre où j'invite des gens juste pour qu'ils parlent de leur business.
Il y a un autre point, parce que effectivement, moi j'allais... En fait, il faut le savoir, j'ai déjà eu trois idées dans ma tête. C'est que le prochain que j'allais proposer, c'est comment est-ce qu'on monte une marque de bijoux orientée vers les femmes et très inclusive. Donc, tout le monde peut acheter ce type de bijoux-là, mais le but de la marque avant tout, c'est que c'est de célébrer les femmes. Donc là, effectivement, ça recoupe la notion de féminisme, mais aussi la notion de... Ben, en fait, moi, il y a un truc qui m'embête très fortement avec pas mal de marketing genré, c'est que je me suis retrouvée dans des situations folles, dans des conférences tech pour des femmes, hein, avec des hommes organisateurs. Et j'ai dit, oui, mais il faudrait peut-être faire ça. Puis là, attention, on a un problème. Et la personne dit, honnêtement, j'en ai rien à faire. J'organise ça juste parce que vous, les femmes, vous n'êtes pas capables de tirer parti de ce mouvement et de faire de l'argent dessus, c'est tout. Ouf.
Wow.
Ok, d'accord. Donc... C'est pour ça que il y a toujours des angles, mais ce que je trouve fascinant, et c'est très important de le dire à tous les gens qui nous écoutent, faut pas débarquer avec « j'ai une marque e-commerce et je veux t'en parler ». Il faut débarquer quelque chose où l'idée, elle doit avoir au moins 4 à 5 mots dedans. Je m'explique. C'est que là, par exemple, si on va parler des conseils ou des bijoux et féminisme, c'est très bien, mais c'est très large. Donc il faudrait vraiment qu'on parle plutôt de « bonjour Tatiana, j'ai une marque au Québec ». Qui pousse les femmes locales. Attention, en plus, ma spécialité, c'est les mamans. Et là, tout d'un coup, ça cause un déclic en toi où tu te dis, ok, je vois l'angle. Mais si on arrive avec quelque chose de très générique en disant, j'ai une marque de bijoux et je veux t'en parler, ça sent le publisac.
Exactement.
Il faut polir cette idée, il faut la faire shiner jusqu'à ce que ça ressemble pas à un publisac, en fait.
Exactement. Ou quelque chose de très générique, puis c'est comme, pourquoi est-ce que je parlerais à toi versus à telle autre personne qui parle aussi du même sujet? puis qui pourrait aussi parler
et
de ça.
Et je rebondis avec un autre truc aussi. Alors ça, par contre, j'ai vu beaucoup plus d'hommes le faire, je tiens à le dire. J'ai quelques amis qui sont dans des podcasts, mais pas au Québec, qui me disent... On me partage des courriels, mais d'hurlu-berlu, qui débarquent en disant « J'ai 30 ans d'expérience, je veux être invitée sur ton podcast. Dis-moi ce dont on parle. » Ah ben mon Dieu, si j'avais le temps de déterminer ce dont on parle, ben, je le ferais moi-même et je choisirais peut-être la meilleure personne, et c'est peut-être pas toi.
Voilà.
Donc il y a un petit peu d'humilité aussi, quand tu l'as dit, là, il faut se mettre à la place de la créatrice. C'est pas seulement à la place de ce qui l'intéresserait, mais de comment est-ce qu'on peut l'aider à faire son travail mieux, sans perdre de temps, de manière agréable. Et oui.
C'est la raison pourquoi je parlais des journalistes, parce que tu sais, on pense à un journaliste, on peut déjà imaginer qu'il est en train de courir un peu partout, à essayer d'aller chercher des faits pour la publication du lendemain, tu sais. Mais les créatrices de contenu ou un créateur de contenu qui crée du contenu semaine après semaine, c'est un peu la même chose. On n'a pas juste ça à faire, puis dans le fond, être capable de cibler son pitch, dans le fond, c'est un pitch, là. C'est un pitch d'idées. C'est vraiment important pour s'assurer que, tu sais... Moi, j'ai des courriels dans mon inbox que ça fait des mois qu'ils m'ont écrit avec une idée de peut-être vouloir venir sur mon podcast, puis j'ai pas répondu, j'ai même pas répondu parce que...
C'est une perte de temps, de temps pour toi, et puis cognitivement, c'est pas le fun. Et en ce moment, on a peut-être besoin d'un peu de fun, en fait.
Ouais, de facilité,
exactement.
C'est tout.
Exactement.
Le UX, le contenu, tout a besoin d'être simplifié, et facilité et clarifié.
Et... Par rapport à ça, moi, j'aimerais bien revenir parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, puis le temps file vite.
Oui.
J'aimerais bien te donner des conseils concrets, en fait, pour ton podcast.
Oh,
donc,
super.
La première chose, c'est si, bien entendu, chaque épisode a sa page sur ton site, tu rédiges une balise méta-titre, la méta-description, tu t'assures que ton titre d'épisode, ben, il parle de bonnes choses. Donc, une de mes spécialités dans mes trucs, c'est, genre, j'ai un petit show vidéo que je fais tous les mois avec un de mes amis chez Google, et puis nos titres, c'est vraiment genre ornithorynque, fluorescent. Tu veux pas faire ça, là. C'est-à-dire que nous, clairement, on le fait juste parce que ça nous fait rire. Le but, il faut que le titre de l'épisode soit clair quand même, et il faut que, ben, bien entendu, l'URL contienne des mots-clés dedans. Donc, encore une fois, pas ornithorynque fluorescent, mais plutôt conseils techniques pour le temps de chargement, mettons. Il faut transcrire chaque épisode dans son intégralité. Ou sinon, si tu ne peux pas faire ça, tu inclus au moins 200 mots de contenu textuel dans les notes de l'émission. Il faut créer un lien vers une ressource de haute autorité sur le sujet de l'épisode. Donc, par exemple, si toi et moi, on se parle et qu'on a un lien à mettre, qui n'est peut-être pas mon article, et ben peut-être que ça serait le lien vers les consignes officielles de Google pour le podcast manager, mettons. Si tu as des invités, et bien dans le contenu, tu inclus le profil vers les médias sociaux, donc de l'invité vedette, Facebook, Twitter ou LinkedIn au choix, mais ça sous-entend que la personne qui a été interviewée, ben, comme tu l'as dit, elle a un passif, elle a une réputation, donc tu valides ça aussi, parce qu'il y a des gens qui peut-être ne me connaissent pas et qui vont peut-être devenir fans plus tard, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent même pas écouter l'épisode avant d'être sûr de qui parle, en fait. Et bien entendu, il faut s'assurer de disposer d'un hébergement de podcast de haute qualité capable de diffuser le contenu rapidement et de manière fiable. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 275% en plus de requêtes sur l'hébergement podcast. C'est que c'est le nerf de la guerre.
C'est fou, hein? Puis ça serait... Il y a plein d'articles que vous pouvez chercher si, là, je parle aux auditrices. Mais si vous voulez connaître des hébergements, il y en a qui ressortent plus que d'autres. Il y en a peut-être deux ou trois qui sont les plus populaires en ce moment chez les créateurs.
Ah, mais tu sais quoi, je suis curieuse, parce que moi j'ai quelques noms pour toi, comme Podbean, Anchor FM, Transistor et Simplecast. Est-ce que tu as les mêmes?
Anchor, oui. Podbean, c'était pas dans mon top, mais moi, tout le monde que je connais qui a un podcast utilise soit Libsyn, qui est celui que j'utilise, ou... c'est quoi l'autre? Bon... Moi, j'hésitais entre deux, puis c'était Libsyn, puis un autre, mais bon, je ne me rappelle plus.
Écoute, parfait.
Mais Anchor, il paraît que c'est très
bon. Je vais quand même rajouter donc, dans mon article la recommandation de Libsyn. Et j'ai une dernière petite chose pour toi, c'est qu'on n'en parle jamais non plus, mais on a besoin d'aide des fois. Donc moi, j'ai entendu parler de Artlist, c'est le Shutterstock en fait des clips audio. C'est que c'est une bibliothèque de musique et d'effets sonores spécifiquement pour les créateurs de contenu. Et c'est un abonnement mensuel. Donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as des petites ressources gratuites ou payantes? Est-ce que toi, il y a des sons comme ça où tu t'es dit « Ah, oh, ça serait bien que j'investisse là-dedans, en fait, ou pas? »
Ben, tu vois, comme là, la prochaine chose que j'aimerais faire, c'est de refaire mon jingle. Moi, c'était Audio Forest, ça se peut-tu? Je suis tellement mauvaise avec les noms. Mais je voulais me faire... tu vois, je voulais contacter des artistes locaux, justement, pour me faire un petit jingle pour mon podcast. J'avais envie d'investir dans une création originale pour ça. Sinon, des ressources pour le podcast? Moi, j'utilise... Bon, c'est pas vraiment une ressource pour le podcasting, mais pour tout ce qui est la gestion du podcast, j'utilise Dubzado, qui me permet d'automatiser un peu les formulaires où je vais aller chercher de l'information que j'ai besoin, dont tu as parlé, pour ensuite rédiger les show notes. Et la dernière chose que je n'ai pas encore implantée, mais que c'est naturellement d'avoir la version textuelle de tout l'épisode. Et ça, j'ai commencé à regarder un peu ce que sous-titreur.com, si je m'abuse, fait en termes de sous-titrage francophone.
Je suis très intéressée par ça parce qu'effectivement, la notion de francophone est un petit peu complexe en ce moment. J'ai testé plusieurs solutions et c'est jamais 100% ça. Donc, je vais rester à l'affût de ce que tu testes et de comment ça marche pour pouvoir partager cette information plus tard.
Ouais, non, je vais essayer très prochainement de voir comment ça se passe avec ça parce que c'est effectivement du vraiment bon contenu. Puis pour quelqu'un qui essaye d'automatiser beaucoup ses processus, si jamais des show notes, ça m'aiderait probablement à rescrire le contenu.
Absolument. Promis, juré, déjà testé, approuvé.
Hey, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de parler de les biens conscients autour de Siri, autour de Alexa, autour
non,
des voix.
Mais tu sais quoi? Je te propose déjà à l'avance, ça va pas être pour tout de suite, mais je propose en fait un épisode sur tous les mythes et tous les biais et tous les problèmes sociaux qu'on a face aux algorithmes en fait. Donc si il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent comprendre pourquoi est-ce que littéralement Google a l'air de vous espionner, vous parlez d'un truc, vous le googlez même pas et tout d'un coup la pub se retrouve sur YouTube, on peut s'en parler. Mmh. On peut parler aussi des biais inconscients.
Tu vois, tu fais le meilleur pitch. On a une super bonne conversation, puis à la fin, tu me donnes un autre angle absolument fascinant. Donc, je te reprends au bon, tu seras la chroniqueuse, chroniqueuse officielle de l'ambition féminine. On s'en reparlera, c'est super fascinant comme
sujet.
Et
ce que j'aimerais bien, en fait, c'est montrer cet exemple. C'était 100% naturel, j'y ai même pas pensé, en fait. C'était juste une réponse à un besoin. « Oh, man, on n'a pas parlé de ça, c'est dommage !» Eh bien, j'espère que ça va motiver d'autres personnes à faire « C'est dommage !» Tatiana, elle n'a pas encore parlé de ce truc-là, puis je sais que moi, je pourrais te dire des choses. Donc, n'hésitez pas à bien penser vos pitchs cette fois-ci, puis je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde qui contacte Tatiana avec de bonnes raisons. Ça veut dire que moi, ma troisième intervention, eh bien, elle va se passer peut-être très loin dans le temps, parce qu'il y aura beaucoup plus de femmes, beaucoup plus intéressantes qui vont vouloir passer.
Absolument. Et puis... je veux juste aussi terminer là-dessus, puis de dire que le contenu est toujours un dialogue. C'est toujours un dialogue, soit avec notre public, c'est toujours un dialogue avec notre communauté. Et nous, en tant que membres d'une communauté, on crée ce dialogue-là aussi avec les créateurs de contenu. Fait que, tu sais, de garder ça en tête, puis c'est drôle, hein, parce que là, on parlait de la voix, puis des assistants, mais si on pense à toute notre création, à tout notre référencement, à toute notre présence en termes de dialogue, ça clarifie beaucoup, 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 beaucoup ces concepts-là qui ne sont pas si compliqués que ça.
Et ça facilite nos vies. Je ne sais pas combien de fois je me suis retrouvée devant une page à essayer de sonner plus académique que je n'avais à le faire, en fait. C'est une gymnastique mentale triste. Changeons cette attitude!
Tout à fait. Myriam, c'était fascinant comme à l'habitude. On aura cette conversation dans le futur éloigné, comme tu dis, mais je te mets quand même dans le line-up et répète-nous où on peut te suivre, te trouver, te lire, t'écouter.
Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts en fait en 2021. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Myriam Jessier. Vous pouvez aussi retrouver ma page d'entreprise où je partage en fait des astuces. Ça veut dire que si vous aimez ma personnalité et mon petit côté saugrenu, vous allez bien apprécier de me suivre sur LinkedIn au niveau personnel. Mais si vous êtes là juste pour les bonnes astuces et un petit peu moins de personnalité, eh bien là, vous pouvez suivre la page sur Facebook de Pragm, la page LinkedIn de mon entreprise, donc Pragm, P-R-A-G-M, comme pragmatique coupé en deux. Ça ne s'est pas aussi bien réalisé que je le pensais, en fait. Et sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi, mais beaucoup plus en Myriam anglophone qui piaille sur beaucoup de choses. Donc accrochez-vous, il y a beaucoup plus de Myriam que de marketing sur Twitter.
Intéressant. Super, ben merci Myriam. Je vais tout mettre les liens et les liens vers tes articles aussi, donc dont on a parlé à travers tout cet épisode. Et puis, ben je te souhaite une super belle journée et comme d'habitude, merci pour tout ce contenu fascinant et ton expertise qui mérite la peine d'être vraiment mise de l'avant.
Ben écoute, merci beaucoup de m'avoir reçue, puis je souhaite une très bonne journée à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous faire un retour aussi pour confirmer si c'est de la tapisserie audio ou si c'est autre chose. À bientôt!
À bientôt!
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!